Ça y est, au Mali, Bamako a pris sa décision, elle sèche et cache. L'ambassadeur de France est expulsé du Mali. Suite aux propos tenus par les autorités françaises à l'endroit des autorités de la transition, Joël Meyer, ambassadeur de la République française au Mali, est convoqué donc ce lundi le 31 janvier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et ce qui en découle, c'est l'expulsion de l'ambassadeur français. L'ambassadeur de France, donc au Mali, a 3 jours pour quitter le pays. Joël Meyer était convoqué donc à la mi-journée au ministère malien des Affaires étrangères suite aux propos tenus donc ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian. Après ces propos indécents et irrespectueux du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en compagnie de son homologue nigérian Assoumi Massoudou. La France se ridiculise au point où même ses alliés la laissent tomber, face à un Mali qui représente donc un bloc anti-néocolonialiste actuellement. Les pays occidentaux n'ont plus le choix que de prendre la porte. Les forces spéciales danoises ont été obligées donc de plier bagages et cela ternit l'image de la France auprès de ses voisins européens. Une humiliation à toute épreuve, l'Allemagne, le Danemark, l'Irlande, tous se font éjecter du territoire malien. Les autorités maliennes procèdent à un nettoyage complet de tous ces militaires qui ont débarqué au Mali. Et avec tout cela, donc l'Élysée est devenue actuellement la risée de l'Occident. Il est clair que Paris ne s'attendait pas à ce que ses coups de bluff et ses menaces lui retombent dessus. Le gouvernement de la République du Mali informe donc l'opinion nationale et internationale que ce jour, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministère donc des Affaires étrangères et de la coopération internationale et qu'il lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures, comme l'a annoncé un communiqué lu par la télévision d'État. La tension est aussi importante entre le Mali et le Niger. Assoumi Massoudou, donc le chef de la diplomatie nigérienne, a affirmé que Niamey ne comprenait pas que des chefs militaires, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir au nom d'un patriotisme frélaté. Paris cherche décidément à brandir la carte de la division entre les Africains pour se donner encore une toute petite chance de garder un pied dans le Sahel. Mais visiblement, le Niger n'a peut-être pas choisi la bonne voie concernant sa politique avec ses voisins. L'influence du Mali est en pleine expansion sur toute l'Afrique de l'Ouest et la Guinée ainsi que le Burkina Faso devraient sans plus attendre emboîter le pas à Bamako. Cela fait un bon bout de temps que le peuple malien demande la fermeture de l'ambassade de France au Mali, considérée comme un comptoir colonial. L'ambassadeur est mis dehors. À quand la rupture totale avec Paris et surtout avec son franc CFA?
Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a tenu récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement de relations amicales entre nations. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. Koulouba, le 31 janvier 2020.
Au Sahel, les armées sahéliennes sont en pleine action. L'Algérie a mis en déroute une colonne de rebelles armés qui tentait de pénétrer au Mali et au Niger. En effet, dans la soirée du 29 au 30 janvier, les éléments des forces mobiles des frontières algériennes postés à la lisière des frontières du Nord, Mali et du Niger ont mis en déroute une colonne de véhicules transportant des éléments armés en provenance de la Libye. Selon certaines sources, il s'agissait donc des rebelles subsahariens et maghrébins engagés comme mercenaires par les Occidentaux. Vu la perte immense d'influence de la France et de ses alliés occidentaux dans le Sahel et particulièrement au Mali, l'Occident tente le tout pour saboter et mettre un frein à tout ce qu'entreprend l'État malien pour libérer son pays du joug de la France. Effectivement, vu les derniers coups d'État dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, comme en Guinée et plus récemment au Burkina Faso, il est clair que les nouveaux hommes forts qui dirigent ces pays ont décidé donc de suivre le Mali. La Guinée a laissé ses frontières ouvertes avec Bamako pour que le Mali puisse contourner les sanctions de la communauté internationale. Suite aux sanctions donc qui sont récemment tombées sur le Burkina Faso et sa suspension dans les instances comme l'Union africaine, il est clair que la suite logique des opérations serait que Ouagadougou se lie également au Mali. Étant donné que les nouveaux militaires qui dirigent ces pays d'Afrique de l'Ouest sont tous décidés à lutter contre le terrorisme et ramener la sécurité sur le continent. Et c'est précisément ce que ne veut pas la France. Il serait grand temps que la Guinée et le Burkina Faso prennent également des mesures concrètes concernant l'emprise de la France sur leur territoire et qu'ils emboîtent tous le pas à Bamako. Un nouvel axe de la résistance africaine est en plein essor. Au Burkina Faso, la situation s'éclaircit un peu plus. Selon certaines sources bien informées, un coup d'État se préparait contre Kaboré. Certes, suite à son refus donc de ramener Barkhane au Burkina Faso, et lors de ce coup d'État, d'autres militaires auraient donc par-dessus tout pris le pouvoir avant eux. De nombreuses informations circulaient donc affirmant que des militaires avaient libéré l'homme de Paris, le général Gilbert Diendéré, qui, pour rappel, a participé à l'assassinat de l'ancien président du Faso, Thomas Sankara, mais ce fut visiblement un échec. C'est ce que planifiait la France, mais ce fut donc un échec. Dans la foulée, c'est le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui ont pris les rênes du pays. Les soldats français donc rôdaient bien dans le coin depuis quelques semaines, de nombreuses infos le prouvent. Et d'ailleurs, la dernière info sortie seulement sur les médias mainstream donc nous laisse tout de même sans voix. Info ou intox, reste à voir. Selon ces médias mainstream, donc une soixantaine de terroristes auraient été tués selon l'armée française. L'opération des forces burkinabées, assistée par des unités françaises de Barkhane, s'est déroulée, et ce, juste avant le coup d'État du 24 janvier. C'est l'armée française qui annonce cela, 6 jours après le coup de force donc qu'il y a eu au Burkina Faso. L'armée française a mis le temps avant d'annoncer cet exploit. Une info assez étonnante mais qui n'apparaît nulle part dans les médias burkinabés. Jusqu'à présent, les soldats burkinabés n'ont jamais eu d'assistance de ce type. Les avancées qu'ils ont enregistrées avec l'appui des forces populaires ne comprenait aucune présence de soldats de Barkhane dans ses rangs. Bref, est-ce une nouvelle manœuvre de l'Élysée qui tenterait de dire au monde que le Burkina Faso roule pour Paris ou qu'en se retirant du Mali, Barkhane se redéploiera au Burkina Faso? Avec une population qui a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle n'hésiterait pas à se faire tuer plutôt que de laisser les convois militaires traverser son territoire, le peuple burkinabé ne sera pas vraiment du genre d'accord et consignant pour que Barkhane commence à se montrer de plus en plus sur le territoire burkinabé. Difficile de croire que Paris et ses alliés oseront faire cela. Mais comme la stupidité des Occidentaux atteint tout de même des sommets ces derniers temps, il faut s'attendre à tout venant d'eux. Le soulèvement en Afrique, le soutien du peuple à leur gouvernement, les nouveaux partenariats gagnant-gagnant, voici ce qui rend la vie du néocolonialisme dure au point d'en mettre un terme.
Vu que ça ne va pas, côté opposition aussi ça ne va pas. Il faut qu'on soit ouvert avec eux. Parce que je suis sûr que les militaires, les policiers ou la gendarmerie qui sont tombés à Inata ces deux derniers jours-là, c'est pas ça. Parce que les attaques sont devenues très permanentes. Il faut que ça m'ait fait maintenant. On en a tout vu. C'est trop dépassé, c'est trop excessif.
L'avancée du convoi avait déjà été perturbée mercredi et jeudi à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest, et à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
Au moins 50 000 réfugiés maliens sur environ 350 000 sont arrivés dans leur village d'origine depuis le 28 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier courant, a annoncé samedi soir le Premier ministre malien. Selon lui, ce retour a été possible grâce au changement des stratégies mises en place par le président de la transition et le ministre de la Défense et des anciens combattants. Sur 350 000 réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur, 50 000 sont aujourd'hui retournés dans leur village d'origine, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'aujourd'hui, notre armée est dans des conditions exceptionnelles qui lui permettent d'accomplir sa mission régalienne historique, j'allais dire, pour sécuriser le peuple malien. Le premier ministre malien a cependant déclaré que l'objectif du président de la transition et du gouvernement est que dans quelques mois, nous pacifions l'écrasante majorité de notre territoire national pour pouvoir aller aux élections. Une rencontre inattendue ce vendredi 28 janvier entre les dirigeants du Mozambique et de la Tanzanie. Les présidents des deux pays se sont rencontrés à Pemba, capitale de la province du Cabo Delgado, pour discuter de la lutte contre le terrorisme. Cette province du nord du Mozambique, frontalière de la Tanzanie, est en proie depuis fin 2017 à des violences terroristes. « Nous avons un problème commun », a déclaré le chef de l'État mozambicain après la rencontre avec son homologue. Les deux pays ont une frontière commune longue de plus de 750 km et que les terroristes traversent, a-t-il déploré. Depuis 4 ans, des groupes armés qui ont fait allégeance au groupe terroriste Daesh terrorisent la province du Cabo Delgado. En 2021, ils ont été jusqu'à prendre le contrôle de la ville portuaire de Palma, paralysant un immense projet gazier de plusieurs milliards d'euros. Ces derniers mois, le Rwanda et la Communauté de développement d'Afrique australe ont envoyé plus de 3000 soldats en soutien à l'armée mozambicaine pour stabiliser la région et éviter une propagation du conflit. La Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Cameroun fait augmenter de manière remarquable le taux de vaccination contre la COVID-19 dans le pays. C'est ce qu'a expliqué Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, à l'issue du conseil de cabinet à Yaoundé. À l'annonce du pass sanitaire pour l'accès au stade par la CAF et le gouvernement, les Camerounais sont allés se faire vacciner. Aujourd'hui, nous avons environ 90 000 personnes qui ont pris leur première dose de vaccin et qui ont augmenté notre couverture vaccinale à 6,7%. Sachant que la CAN a débuté le 9 janvier et qu'au 3 janvier, le taux de population éligible dûment vaccinée était de 4,7% selon les données du programme élargi de vaccination, cela représente une avancée importante en l'espace de seulement 20 jours. Pour exemple concret, le Centre de vaccination internationale de Yaoundé a procédé à 2500 injections le 8 janvier contre une moyenne de 135 injections quotidiennes les semaines précédentes. De nombreux autres points de vaccination ont parallèlement enregistré un boost d'influence. Les habitants de Tafiré ont exprimé samedi 29 janvier leur satisfaction doublée d'une reconnaissance au président Alassane Ouattara quant à l'achèvement des travaux d'électrification de leur village. « Nous disons grand merci au président de la République, un grand bâtisseur, le deuxième messie de la Côte d'Ivoire paisible, moderne et prospère, après feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne », avait déclaré le chef de village de Tafiré au cours d'une cérémonie publique alors que le projet d'électrification du village était en cours d'exécution. Ces travaux sont achevés avec la connexion de Tafiré au réseau électrique national depuis le vendredi 28 janvier 2022. Nous avons été patients et voilà qu'aujourd'hui, nous bénéficions à notre tour des retombées palpables et salutaires de la politique sociale de Papa Addo et de son gouvernement conduit par le Premier ministre Patrick Achi, s'est félicité une habitante du village.